globalement, la formation qu'on a essayé de mettre en place ici, c'est vraiment une formation sur une approche globale, une connaissance globale par la personne qui intervient sur la forêt, de comment fonctionne l'écosystème forestier, de la manière de travailler avec pour produire du bois, mais aussi permettre des multiples usages de la forêt, que ce soit pour de la cueillette, pour de la chasse ou pour d'autres usages. Après, ça, c'est très ouvert. Aussi dans une idée que finalement la forêt avec sa propre croissance fournit du bois qu'on peut prélever sans pour autant compromettre cette vie forestière, cette biodiversité. Donc ça, c'est pas du tout l'approche de ce que j'en sais, en tout cas de ce qui se fait à la Bastide des Jourdans, dans d'autres centres de formation plus classiques où on apprend essentiellement les techniques de coupe pour être efficace, rapide, mais pas forcément, parce qu'on intervient souvent après des gens qui sont experts forestiers ou ingénieurs forestiers qui eux savent ce qu'il faut couper, comment et autres. Alors que là, on a essayé que les stagiaires aient cette approche globale et à partir de ce moment-là, soient vraiment aptes à offrir un service complet de gestion forestière.
Entre cimes et racines, une série d'émissions réalisées par Radio Danzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Une formation pas comme les autres. Dans cette 7e émission, nous nous retrouvons fin novembre 2011 sur une petite route sinueuse menant de Digne au col de Corobin dans les Alpes de Haute-Provence. Une forte agitation perturbe la circulation. Des bruits de tronçonneuses venant de la forêt de chêne blanc à côté de la route, des camions, de nombreuses voitures et une petite foule de gens. Tout ça pour une conférence de presse en plein air, sous un soleil magnifique, accompagné d'une démonstration pratique du travail mené dans le cadre d'une formation d'éco-gestionnaire récoltant forestier. Celle-ci, une première en France, est proposé par le Centre de formation professionnelle agricole de Carmégène. Dans cette émission, nous écouterons d'abord les extraits de la présentation officielle donnée aux journalistes et ensuite des entretiens avec différentes personnes impliquées dans la formation.
Tristan Klein, donc je suis l'animateur du pôle d'initiative locale d'économie solidaire qui se trouve à Carmégène. Et donc l'origine de cette formation, c'est la rencontre avec des professionnels de la forêt, donc en particulier Pascal Menon, qui exploite une forêt au-dessus de Sisteron, qui s'appelle sur le massif de la Pierre Écrite, avec des techniques particulièrement, proches du développement durable, et donc techniques que vous verrez appliquées aujourd'hui. Ces personnes-là sont dans une approche d'économie solidaire, donc c'est-à-dire plutôt du circuit court, donc le bois directement du producteur au consommateur, et avec l'esprit d'associer les consommateurs à leur manière de voir la forêt et de la cultiver, puisqu'en fait c'est pas des exploitants, mais c'est plutôt des cultivateurs de forêt et des récoltants. Donc l'idée c'était de dire c'est vraiment des savoir-faire particuliers, une approche particulière de la forêt qui nous permet de faire beaucoup de choses, et d'enrichir le patrimoine, puisque la forêt est un bien commun. Donc à partir de ça, l'idée c'était de dire comment est-ce que ces gens-là, qui ont vraiment des savoir-faire accumulés, peuvent les transmettre. Et donc l'idée est partie de là, en disant pourquoi pas organiser une formation pour une gestion alternative des forêts méditerranéennes, le faire qu'ils puissent transmettre ce savoir-faire. Et comme la forêt est un bien commun, c'était difficile de monter une forêt comme ça sans que ça concerne forcément les gestionnaires de ce bien commun que sont l'ONF, par exemple, qui est en tout cas dans les forêts municipales, et puis aussi les municipalités qui sont propriétaires des forêts et qui peuvent être intéressées aussi par une approche un petit peu différente de la forêt pour enrichir ce patrimoine qui appartient donc à tous les habitants des communes. Et donc on a pris la tâche à ce moment-là de la ville de Digne, qui a dit que cette approche de la forêt les intéressait. Et puis on a pris la tâche du conseil régional, qui a aussi dit que ce type d'approche forestière les intéressait. On a pris la tâche de l'État à travers les services de l'emploi qui s'occupent de la formation et qui étaient aussi intéressés. Et on a commencé à faire un tour de table. On a aussi pris la tâche de deux fondations, celle du Crédit Agricole et la Fondation pour une Terre humaine, qui est une fondation suisse, et qui était aussi intéressée par le fait que ce savoir-faire, ces savoir-faire se transmettent. Et bien entendu, le PIL étant une émanation de Carmejan, c'était assez logique qu'on s'appuie sur l'appareil de formation de Carmejan pour voir comment est-ce qu'on pouvait transformer cette idée en une réalité concrète. Voilà.
Donc Serge Villard, directeur du centre de formation de Carmejan. Donc comme il vient de vous être décrit cette opération, donc dans un premier temps, une attente d'un certain nombre de partenaires, dont la ville de Digne, dont l'ONF, mais avec la participation du réseau Alter Forêt et bien sûr les prescripteurs de formation, le conseil régional et le fonds social européen avec les services de l'emploi de la Directe. Donc tous ensemble, nous avons construit un programme de formation avec bien sûr l'aide de deux formateurs du CFPPA qui ont animé et coordonné le stage. Donc tout ça a abouti à la réalisation du stage de formation éco-gestionnaire récoltant de la forêt. Donc vous allez avoir quelques manipulations dans la forêt tout de suite. Et donc le stage a démarré début septembre et va se terminer fin décembre avec une évaluation au mois de janvier.
Alors Dominique Nouvellon de l'Office national des forêts. Eh bien, l'Office national des forêts, je dirais, a joué son rôle institutionnel vis-à-vis de la commune et des autres partenaires en proposant la formule de la FOAGE dans le cadre de la gestion de la forêt communale de Digne. Qu'est-ce que la FOAGE ? Eh bien, la FOAGE, c'est un droit d'usage et de jouissance des habitants d'une commune à avoir du bois de chauffage, en particulier, dans des conditions privilégiées dans leur forêt communale. Donc l'ONF a proposé, dans le cadre de la gestion forestière, la formule de la FOAGE pour permettre la réalisation de cette opération. Et la FOAGE a justement ce gros avantage de rentrer dans la gestion de circuits courts. Donc nous, on a été contents de rencontrer des gens qui travaillent et qui pensent différemment de nous. Et on a été contents de travailler avec eux et de voir d'autres pratiques que les nôtres. Quand on est venu sur le terrain, on a vu comment ils opéraient, comment nous, on aurait opéré. Et ça nous a suscité des pistes de réflexion pour nous.
Alors Philippe Béraud, moi je suis adjoint au maire et ma délégation c'est l'action culturelle et l'écologie urbaine. Et je suis également vice-président de la communauté de communes en charge de l'agenda 21. Alors tout de suite pour dire que cette opération elle est déjà labellisée dans le cadre de l'agenda 21 hein, puisqu'il s'agit pour nous d'organiser une gestion durable de la forêt en exploitant je dirais à la fois le bois sans pour autant la détruire, sans pour autant la transformer de façon radicale. Alors nous, on a été saisis en fait par le CFPPA, puisqu'il n'y a pas de formation sans gisement, et la ressource, évidemment, c'est le bois. Et la ville de Digne a 1300 hectares de propriétés forestières, gérées par l'ONF, suivant un contrat de gestion. Donc évidemment, autour de la table, ça a été une expérience vraiment très intéressante et très enrichissante, il faut le dire aussi. On s'est retrouvé avec à la fois un établissement d'enseignement et de formation, le PIL avec le réseau Alter Forêt, l'ONF, la CC3V et la commune de Digne. Et puis retrouver aussi des modes de gestion ancestraux, je dirais, avec la méthode de la fouage, avec le mode de la fouage qu'on ne connaissait pas ou qu'on avait quand même sur le terrain largement oublié. Puisque la ressource forestière est d'abord la propriété de la commune de Digne, mais également, je dirais, la propriété de l'ensemble des habitants de cette commune. Et on pouvait concilier finalement deux objectifs, à la fois servir une formation originale, innovante, et je dirais assez unique aujourd'hui dans le champ des formations sur la forêt, d'une part, et d'autre part, répondre à un besoin d'utiliser localement une ressource qui est abondante, Mais on le sait très bien avec le réchauffement climatique qui reste extrêmement fragile et qui se transforme aussi sous l'effet de l'augmentation des températures. Et puis aussi, proposer aux Dinois à un prix... Alors là, il y a toujours eu un débat, évidemment, sur la mise à disposition du bois, puisque le prix aujourd'hui qui a été acté en conseil municipal, c'est 45 euros le stère, pour des prix du marché aujourd'hui qui sont entre 50 et 70 euros le stère. Mais il y a également, enfin, moi, l'idée politique, c'était aussi de proposer aux Dinois une ressource locale à un prix... attractif, devant permettre à des familles qui sont, il faut le dire aussi, dans des besoins, dans une difficulté économique notamment, de pouvoir bénéficier de bois de chauffage, qu'il faudra évidemment transporter. Et donc la ville a mis à disposition à la fois sa propriété forestière sous le contrôle de l'ONF, ses services techniques, puisque vous avez vu que ce sont les camions de la ville aujourd'hui qui sont venus systématiquement chercher le bois pour l'entreposer au service technique. Et à partir donc de la semaine prochaine, enfin dans une dizaine de jours, c'était le 24, on commençait à prendre également contact auprès des Dinois, parce que la ressource est exclusivement destinée aux habitants de ce territoire, aux habitants de la ville de Digne. C'est le principe de l'affouage, hein, Dominique. Et donc d'ici quelques jours, les habitants seront invités à venir retirer le bois donc qu'ils auront commandé, en fait, sur ça se passera sur une quinzaine de jours ou sur trois semaines.
Voilà donc quelques extraits de la conférence de presse. Écoutons maintenant Olivier Estela, l'un des responsables de la formation à Carmejane.
On a essayé de mener la formation vraiment d'avoir une approche du métier plus transversale qu'une spécialisation vraiment bûcheronnage ou autre, puisque nous en salle aussi, il y a des apports pédagogiques sur transformer, valoriser le bois, le commercialiser, mais aussi communiquer sur ce bois et son mode de gestion. Donc c'est vraiment une approche un petit peu plus transversale, un petit peu plus intersectorielle. Dans les intervenants extérieurs aussi, on a M. Oulens par exemple, qui lui est à la fois bûcheron, scieur, débardeur à cheval et aussi élagueur. Hein. Voilà. Donc c'est un petit peu ces schémas économiques qu'on met en avant. C'est vrai qu'au niveau des chantiers, la qualité des travaux qui ont été effectués et puis les bénéfices futurs qu'il y aura sur la forêt, sur du plus long terme, ont été unanimement reconnus, hein, je pense, hein, par à la fois les agents de l'ONF qui sont passés sur les chantiers et puis l'ensemble des partenaires.
Mais en gros, vous avez l'impression que cette expérience est assez concluante et ça devrait être reconduite l'année prochaine ou...
Voilà, ben on est en train d'y travailler. Nous, l'objectif, c'est que ça soit reconduit sur l'année prochaine, mais aussi que ça soit transférable sur d'autres territoires.
Mais il semble qu'il y avait, comme c'était un tout petit peu indiqué là, il y avait un certain malaise chez les professionnels parce que, enfin, ils essayent de vivre de leur travail et ils vendent à peu près à 70 euros le stère actuellement. Et c'est pas évident de vivre quand on fait un travail sélectif. Donc ils étaient inquiets par la vente à 45 euros. Alors je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ça, mais que ça. Si ça deviendrait quelque chose de plus répandu, ça pourrait être un peu problématique pour eux dans leur vie professionnelle.
De toute façon, il est clair donc, que la formation, comme elle a été montée, l'objectif, c'était un objectif pédagogique. Oui. Donc après, il fallait trouver un moyen de mettre à disposition les bois pour la formation, ce qui n'est pas évident parce que l'établissement public de Carmejane n'est pas exploitant forestier. Donc pour rentrer dans un cadre le plus simple possible et en même temps avoir une utilité sociale, c'est la méthode de l'affouage qui a été choisie. Donc là, l'idée, c'est aussi qu'on a fait une petite plaquette qui s'appelle « De quel bois je me chauffe ?» qu'on donnera aux personnes qui vont venir retirer le bois au service technique et qui explique que effectivement le bois qu'ils ont, le tarif dont ils bénéficient au niveau du bois est un tarif qui a été voulu par la municipalité et qui n'est permis que dans ce cadre-là parce qu'il y a un soutien municipal, mais que le tarif ordinaire serait plutôt autour des 70 à 80 euros le stère, qui permet que les gens vivent dignement de leur activité et de couvrir les frais réels de ce que représente ce type d'exploitation. Donc c'est extrêmement important, d'autant plus puisque l'idée, c'est bien d'installer derrière les gens qui sont formés là et qu'ils ne s'installeront pas avec un prix à 40 euros le ster, c'est totalement utopique. Ou alors, on est dans un système de gestion qui est totalement différent, où c'est extrêmement mécanisé, industriel, et auquel cas, c'est pas du tout le type d'approche qu'on a choisi, et c'est souvent pas en circuit court. Et c'est pour ça qu'on arrive à des tarifs de marché qui sont même difficiles aujourd'hui à fixer, tant les origines sont difficiles. Là, l'objectif, c'est d'avoir une traçabilité sur la manière dont les choses sont faites et le coût humain, je veux dire, ou en tout cas le temps humain que ça demande, et donc le prix qu'il faut payer pour que ce soit une approche décente, quoi.
Poursuivons avec Gérald Houlance, l'un des quatre formateurs intervenant dans la forêt. Tous les quatre sont membres du réseau pour les alternatives forestières.
Alors ici, ben déjà les stagiaires ils étaient très motivés, donc pour les formateurs c'est motivant aussi de venir. D'ailleurs, si les stagiaires n'étaient pas motivés, je ne serais pas là. Et sinon, ouais, les parcelles qu'ils nous ont données, moi ils disent qu'ils ont donné le meilleur. Bon, on n'a pas vu partout, mais bon, j'en suis pas si sûr que ça. Mais bon, c'était intéressant parce que comme c'était un peu difficile de choisir pour les stagiaires, c'était pas mal que ça soit pas aussi simple que ça pour le choix. Donc, si en formation on apprend à faire le plus difficile, ben le plus facile, ça sera simple, quoi.
Mais il faut préciser quand même parce que, enfin, ici, la formation commence, si je comprends bien, hein, c'est déjà, il faut entrer dans la forêt et s'imprégner un peu de comprendre où on est. Ensuite peut-être sélectionner quels arbres on risque de couper, c'est ça?
Voilà, ouais. Ben c'est ce qu'on leur apprend, c'est de l'observation en fait. Bon, il faut une connaissance de base pour connaître un peu la nature, mais c'est en observant la forêt qu'on peut dire est-ce qu'on coupe, est-ce qu'on coupe pas, et si on coupe, qu'est-ce qu'on coupe, quelle quantité et quelles conséquences il y aura sur l'écosystème, quoi. Donc ça, les stagiaires sont bien imprégnés de la façon de faire. Et c'est vrai qu'on peut pas arriver, on sort du camion, on prend la tronçon et on rentre dans la forêt et bim, on coupe. Il faut un petit peu se poser, observer. Il faut observer avant de couper parce que sinon, on fait n'importe quoi. Comme ils ne sachant pas ce qu'ils vont faire par la suite, dans la formation, on a essayé de leur montrer toutes les façons de faire. Soit on évacue à la main, soit avec la brouette à chenilles, soit avec les chevaux. Et selon le mode d'évacuation, on ne va pas travailler de la même façon. Avec les chevaux, on les sent long. Avec la brouette à chenilles, on met en 1 mètre. À la main, pareil. Donc voilà. Eux, par la suite, une fois qu'en formation, ils auront vu tout ce qu'on peut faire, dans le milieu professionnel, ils vont pouvoir dire là, ça serait mieux d'utiliser ça. Et là, ça serait mieux d'utiliser ça. Ça sera plus rentable.
En même temps, je veux dire, en venant ici dans la forêt, je vous vois travailler un peu, c'est clair que c'est une responsabilité que vous prenez en tant que formateur, mais aussi parce que c'est un tronçonneuse, c'est une petite erreur, ça peut être extrêmement grave au niveau, enfin, on peut couper un champ presque, ou enfin, on peut se faire très mal, un arbre peut tomber pas comme c'est prévu, on est dans des pentes quand même parfois considérables, donc... Ça, c'est peut-être pas évident, non, par rapport à tous ces risques.
Ben là, c'était pas mal, parce que sur la formation, il y avait à chaque fois deux formateurs en même temps que les stagiaires. Donc comme il n'y avait pas beaucoup de stagiaires, ça permettait d'être bien vigilant chacun sur la sécurité. La tronçonneuse, c'est vrai que c'est dangereux, ça coupe vite, donc on peut se couper. Et effectivement, c'est vite fait de couper un arbre qu'il ne fallait pas couper. Et de le faire dans la pente en plus, voilà, c'est plus compliqué, quoi.
Est-ce que entre vous, vous avez des leçons que vous pouvez tirer de cette formation? Justement, peut-être c'est trop court, c'est trop long, je sais pas, ou il faudrait imaginer un peu différemment.
Ben là, ce que je trouvais difficile, c'était qu'il y avait beaucoup de gens en jeu. Enfin, il y avait la ville de Digne, il y avait l'ONF, il y a la Carmejane, plus les formateurs extérieurs. Et arriver à chapeauter tout ça et à organiser tout ça, c'est pas simple. We'll be right back.
Pour les stagiaires, la formation pratique en forêt s'est terminée ce jour-là. Écoutons Guillaume.
C'est le dernier jour, là. Ah oui. Ouais. Donc bon, c'est un peu à regret, mais bon, on a vu quand même pas mal. D'après les formateurs, on a bien saisi l'essentiel. Donc ça, c'est assez sympa. Après, bien sûr, il nous faudra de la pratique, plus de pratique, quoi, plus d'expérience. Bon, moi, ce que j'en pense, c'est que, parce que c'est expérimental et qu'on est dans un certain cadre, il y a eu des petits désagréments, de la logistique et tout ça. Un peu comme il disait Gérald, par rapport à l'administration, on a perdu pas mal de temps. Mais sinon, au point de vue formation, le contenu, je vais parler au nom des autres un petit peu, mais on est ravis parce que le fait qu'il y ait ces quatre formateurs vraiment professionnels, ils ont apporté leur vision qui est un peu différente, quoi, mais ils ont quelque chose de vraiment professionnel et ils ont bien pu transmettre chacun à sa façon.
C'est une formation qui tente de, je crois, expliquer pas mal de choses finalement, parce que déjà savoir sélectionner des arbres, c'est pas forcément facile. Après, il faut le couper, il faut le débarder, il faut le vendre. Donc tout ça, c'est en 4 mois. Est-ce que c'est...
C'est beaucoup trop court, c'est clair, parce que toute la filière en si peu de temps, c'est vraiment trop court, quoi. Là, c'est comme une introduction à chaque... À chaque boulot qu'on a eu, en fait, sur l'abattage, bon, on a eu de la démonstration, on a pu s'exercer aussi, mais c'est clair que c'est beaucoup trop court.
Mais a priori, est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose quand même d'avoir cet aperçu, si on peut dire comme ça, et puis après on peut approfondir, ou est-ce que tu trouves que ce serait important de, en fait, finalement, de faire une formation bien plus longue?
Je pense que sur la longueur, ça pourrait être mieux. Parce qu'on pourrait aller encore plus loin dans le diagnostic et peut-être sur les types de forêts, parce que on s'aperçoit qu'en faisant des visites, il y a quelque chose qui nous vient et il faut rester plus longtemps en forêt pour le capter. Ça, je pense que sur la longueur, ça pourrait jouer sur la qualité de la formation. Et pour aller plus loin au niveau débardage, parce que bon, on a vu la brouette à chenilles, mais il y a d'autres moyens. On n'a pas vu le câble, par exemple, qui reste.
Vous avez travaillé avec le cheval?
Oui, Gérald qui est venu 3 jours sur le chantier du Ciron. Donc ça, c'était super intéressant. Et on a pu voir plusieurs aspects. Mais c'est vrai que par rapport au câble, on n'a pas vu, par exemple, le débardage du câble. Ça aurait été intéressant. Et donc c'est pour ça que d'avoir une formation plus longue, je pense que ça pourrait être bien pour faire plus de visites, rencontrer plus de professionnels aussi. Et ça, je pense que ça a manqué, autant que ce soit dans les transformateurs, les scieurs, les tourneurs, ébénistes ou je ne sais quoi, charpentiers, on n'en a pas vu assez.
Comment vous, vous êtes 5 ou 6, je ne sais plus combien, de stagiaires, mais vous avez réfléchi comment vous allez continuer? Vous avez toi, par exemple, tu as déjà une toute petite idée?
Moi, j'ai un projet, mais après, c'est au niveau des statuts juridiques, là, que je nage complètement. Donc, on va nous introduire quelques notions. Mais concrètement ici, on est 3 à avoir une idée claire de ce qu'on veut faire.
Mais c'est dans quel sens alors?
Au niveau de l'activité, tu parles? Il y en a un qui veut continuer sur Longomaille, donc avec de la pluractivité, de l'abattage à la transformation, à la charpente. Il y en a un qui veut faire de l'abattage et des espaces verts. Et moi, je veux faire de l'abattage et des bardeaux. Donc, des bardeaux de bois. Donc, c'est plus sur la forme qu'il faut concrétiser tout ça. Parce que c'est pas évident.
Ce qui est bien, c'est quand même qu'il y a un réseau qui regroupe un peu tout ça, quand même. Parce que comme ça, au moins, on n'est pas tout seul, chacun dans son coin.
Ouais, voilà. Le but aussi, c'est pas de se séparer dès la fin de la formation. On va s'entraider, surtout au début. On a vu les formateurs nous ont fait part de leur expérience, leur échec et tout ça. Donc on se nourrit de ça pour essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Ouais.
Est-ce que vous avez pu faire des réflexions au niveau des organisateurs de la formation? Comment justement les stagiaires vont pouvoir continuer? Est-ce qu'il y a des pistes ou des réflexions par rapport à ça?
Tout à fait. Donc pendant le temps de la formation,
Tristan Klein.
Les stagiaires ont été mis en rapport, donc sont allés déjà, se sont déplacés aux rencontres du réseau Alter Forêt dans le Tarn. Ils sont allés là aux rencontres des forêts modèles qui se passaient dans le massif des Maures. Donc en fait, ils ont été mis en contact le plus possible avec des professionnels, mais ils ont aussi participé, je dirais, au contact avec la population. Ils vont participer à la distribution de bois pour voir aussi comment ça se passe dans une municipalité et être capables aussi après de contacter par eux-mêmes des municipalités ou des propriétaires privés pour expliquer ce qu'ils font. Et puis, je dirais, arriver à vendre leur savoir-faire particulier.
Il faut dire que cette fois-ci, c'était un peu, bon, pas tout à fait en dernière minute, mais il n'y avait pas beaucoup de temps pour recruter des stagiaires, je crois. Mais là, si jamais ça se refait, ça serait plutôt l'automne, j'imagine, 2012. Donc, comment vous avez réfléchi un peu, comment peut-être attirer? Parce qu'en gros, on pourrait quand même augmenter le nombre de stagiaires, je pense, non?
Oui, l'objectif, c'était une douzaine de stagiaires. Donc, ça ira guère au-delà parce qu'il faut quand même beaucoup d'encadrement parce que c'est un métier à risque aussi. L'objectif, effectivement, c'est on n'a pas tiré toutes les leçons de cette formation. Donc, c'est possible aussi qu'on la rallonge parce que je pense qu'à la fois les formateurs et les stagiaires ont vu la richesse de ce qu'il y avait à apprendre. Et donc, se dire, c'est court finalement, c'est 450 heures. Donc, on irait plutôt vers 600 heures. Et effectivement, l'objectif, après, c'est de faire savoir ce qui s'est fait. Donc à travers le conseil régional ou à travers d'autres organisations, et peut-être aussi au printemps là, organiser une ou deux journées de colloques pour faire favoriser ces échanges aussi avec le CRPF, d'autres organismes, pour après l'année prochaine faire mieux connaître aussi cette formation et puis qu'il y ait plus de monde qui s'y inscrive.
Ces réflexions que vous avez eues à l'ONF en regardant ce genre de travail, est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez imaginer reproduire peut-être dans certaines circonstances?
Pour l'instant, dans le cas des exploitations actuelles.
Dominique Nouvelon.
Avec les bûcherons professionnels qui travaillent dans le département, travailler avec des prélèvements aussi faibles qui sont faits ici, ce n'est pas tenable financièrement, économiquement parlant, ce n'est pas faisable. Donc, nous, à l'ONF, on fait un juste compromis entre une saine gestion et justement faire en sorte que les exploitants qui vont venir couper le bois qu'on a désigné puissent vivre de leur métier, d'autant plus qu'il faut fournir la demande que demandent les gens. Les gens ont besoin de bois de chauffage. Sur un département, ça représente des milliers de mètres cubes. Et donc, il faut répondre de façon rapide et claire à cette demande.
Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une espèce de conscience qui s'accroît, quoi, en fait, quoi, en France, par rapport à la question de la forêt, des gens qui trouvent dommage s'il y a des grandes coupes rases, par exemple, et qui peut-être sont susceptibles, à, un peu comme avec l'agriculture biologique, et de payer un prix un tout petit peu plus fort s'ils voient que c'est un travail qui entretient la forêt?
Alors, notre travail consiste justement à gérer la forêt de façon durable, et on le fait en fonction de critères bien précis, de notes de service, d'instructions, de consignes techniques qui font qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où. Et en général, les coupes rases sont peu courantes. Et quand on les fait, c'est qu'elles répondent à une nécessité sylvicole et non pas à une nécessité économique.
On sait qu'il y a on parle beaucoup des pressions sur l'ONF, enfin dans le sens que l'ONF doit trouver plus de ressources elle-même, enfin économiques, et que il y a une pression aussi. Je veux dire, on peut aussi parler des douleurs chez un certain nombre de personnes qui travaillent pour l'ONF. On sait qu'il y a eu des suicides, hein, je veux dire, et même plusieurs. Est-ce que il y a quand même une malaise par rapport à cette pression et l'envie que vous avez de gérer correctement la forêt?
Alors moi, je pense que la forêt est quand même bien gérée. On ne fait pas n'importe quoi. La forêt est gérée en fonction de plans de gestion qui sont élaborés, réfléchis, pensés, souvent sur plusieurs années avant qu'ils soient mis en œuvre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est une pression, pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose qui soit dérangeant en soi, sauf si la pression est trop forte et inconsidérée, ce qui n'est pas forcément le cas. De plus, et donc ça c'est quelque chose que les gens ne savent pas, c'est qu'on coupe en deçà de la production biologique de la forêt. On va dire grossièrement, en forêt française, la forêt française doit produire entre 3 et 4 mètres cubes par hectare et par an. On n'en prélève que 2 mètres cubes. Il y a toute une partie qui sert à la capitalisation de la forêt. Donc, dire qu'il y a surexploitation est quelque chose, de la part des gens qui nous critiqueraient, serait une chose à bien finaliser et à bien expliciter, et avec des exemples concrets.
Alors Daniel Reboul, c'est donc de l'ONF, je viens de parler à votre collègue, mais qu'est-ce que ça vous inspire ce genre de formation en fait? Et c'est assez différent que d'autres qu'on connaît jusqu'à présent.
Oui, ben c'est assez différent, mais en même temps, c'est une sylviculture relativement classique à partir du moment où on souhaite avoir une forêt de chênes dans laquelle on va produire du bois de chauffage, mais peut-être également à terme du bois de meilleure qualité, si on souhaite faire de la petite menuiserie, des choses comme ça. C'est tout à fait le type de sylviculture qu'il faut appliquer. Et là, on peut l'appliquer grâce à des conditions dans la condition de la formation. Ensuite, sur un plan purement économique, la question reste posée et il faudra encore travailler pour arriver à faire passer ce type de sylviculture dans les mœurs classiques.
Lors de cette journée, des échanges parfois animés ont eu lieu. Écoutons un bout de conversation entre les formateurs et Dominique Nouvelan de l'ONF.
Dans le premier bilan, vous marquiez que vous n'avez pas donné le meilleur. Si. On avait bien recherché justement à vous faciliter la chose et à chaque fois, les animateurs étaient contents. Mais... Pour l'année prochaine, si la formation est reconduite, oui. De toute façon, nous, comme on veut que les formations soient réussies et qu'il y ait un bilan positif à la fin de l'opération de formation et de sylviculture, on a intérêt à ce que ça se passe bien et que les gars aient des peuplements pas mal. Néanmoins, le problème, c'est que une fois qu'on aura fait les beaux peuplements, qu'est-ce que je fais, moi, des autres ?
Moi, non, vous avez dit il y a 400 hectares dont on fait rien.
Oui, mais
entre rien faire ou profiter de faire une formation et d'améliorer la forêt, donc on augmente le potentiel de la forêt, ben voilà.
Alors, tout le monde est content. Oui, absolument. Le problème, c'est que dans les 400 hectares, il y a de tout. Parce que quand vous regardez bien dans ce que vous avez fait, c'est des croupes, des creux, des croupes, des creux. Et dans les croupes, ce qui est souvent à l'UBAC est joli. C'est ce qu'on vous a proposé. Mais à l'ADRE, où il faut quand même aller parce qu'il y a un travail de sylviculture à faire, c'est moins intéressant. Et à ce moment-là, l'exploitant, quel qu'il soit en formation ou que ce soit un exploitant professionnel, il y va moins de gaieté de cœur. Et puis parfois...
Dans une formation, on peut se permettre d'aller dans des endroits où un professionnel n'irait pas. Parce que le plus important, c'est de former des professionnels compétents.
Et bien dans leur peau.
C'est comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est mieux d'être un gars dépressif dans un tracteur tout seul toute la journée ou d'être une bande de jeunes qui s'amusent, qui ne gagnent pas sa vie, mais qui s'amusent et qui est en pleine santé?
À ce moment, les jeunes, ils commencent à vieillir et il faut qu'ils gagnent leur vie.
Ouais, mais ouais, ça dépend de ce qu'on a besoin en fait. Hein. Si on n'a pas besoin d'argent.
Il faut un minimum.
Ouais, il faut un minimum, mais. Mais. Il y en a qui ont besoin de plus d'argent que d'autres.
Bon, bah, je vous dis à plus. Un de ces quatre.
Ça marche.
Allez, bonne journée.
Venons-en maintenant à Philippe Perrault, adjoint maire de Digne.
La difficulté, c'est d'arriver à convaincre les élus que la forêt, ce n'est pas qu'une ressource fiscale, économique, c'est aussi un enjeu écologique, un enjeu social et accessoirement, je dirais parfois, un enjeu financier. Il faut quand même inverser les choses et mettre peut-être l'enjeu social et écologique en avant avant l'objectif de tirer profit d'une façon plus ou moins abondante d'ailleurs de la forêt, ça dépend des prix du marché. Et là, disons qu'il a fallu convaincre les élus que ça n'allait pas nous rapporter tant que ça. Mettre 200 stères de bois sur le marché, ben on n'allait pas les vendre très cher. Et d'autant plus qu'on allait devoir, et c'était l'engagement qu'on avait pris, partager le fruit de la vente, le produit de la vente avec le centre de formation. De telle façon qu'il s'agissait avant tout, ça c'était mon objectif, de permettre l'équilibre de la formation, l'équilibre financier de la formation. Donc avec un partage qui doit être de 20% pour la commune de Digne et 80% de la recette pour Carmejeanne. Et ça me semble tout à fait légitime. Il a fallu convaincre à nouveau les élus de la justesse finalement de ce projet. Et je dois dire que ça n'a pas été facile. Défendre ce projet qui a été finalement voté en conseil municipal. Pour l'avenir, je ne me fais pas de soucis. Les formations, cette formation-là, on va autant que faire se peut. Si Carmejeanne repart dessus, elle sera pérennisée sur le domaine forestier de la commune.
Liseron Fleury est bûcheron, est l'un des quatre formateurs.
Moi, j'ai été formateur à la Bastide des Jourdans sur une période de fin octobre à fin mai, c'était en 2006-2007. Et bah forcément, il y a une grande différence parce que le nombre de personnes à la Bastide qu'on avait, nous, était beaucoup plus grand. Bastide des Jourdans, c'est le centre régional de formation forestière. Il y a des petites formations forestières à droite à gauche avec des différentes qualifications, mais c'est officiellement, en tout cas, le seul centre forestier en région PACA, ce qui est unique en France parce que les autres régions ont au moins deux centres de formation. Donc c'est pour ça qu'ils ont un peu tout le monde, quoi. Et effectivement, c'est un centre qui est lié à l'industrie locale, enfin locale, régionale et extra-régionale. Donc forcément, c'est lié à la papeterie de Tarascon, qui embauche énormément de personnes, qui fait tourner la filière papier. Enfin, bois à papier du quart sud-est de la France. Et donc, forcément, ben, tout ça, c'est au quotidien, en tout cas, c'est présent, quoi.
Mais dans la gestion forestière, enfin, l'exploitation forestière en France, on utilise de plus en plus des grosses machines. Enfin, il y a des abatteuses et des grandes engins, des grands engins pour sortir le bois, enfin, etc. Est-ce que dans un centre comme ça, c'est plutôt ce genre de travail qu'on apprend, ou est-ce qu'on apprend aussi des méthodes plus traditionnelles? Alors déjà la tronçonneuse, mais même à la limite de comprendre comment couper un arbre, vraiment à l'ancienne, ou c'est vraiment axé que sur la machine?
Non, c'est pas axé que sur la machine, parce que pour l'instant, aujourd'hui, encore dans les forêts ici, enfin ici, dans les régions alentour aussi, la tronçonneuse, elle est encore vachement utilisée, même si on prône le gros machinisme. Mais par contre, voilà, quand moi j'essaie d'apprendre, d'enseigner un abattage correct en respectant les semis qui arrivent, on me dit que ça sert à rien, que je perds du temps. Voilà, quand on abat un arbre mal et qui tombe sur ce qu'on appelle une tache de régénération, donc c'est des endroits où il y a des jeunes semis qui poussent, et bien normalement on est pénalisé. Donc forcément, donc à ce moment-là, il faut que le bûcheron soit formé à un abattage qui soit correct, qui soit bien dirigé. Sauf que ça prend du temps. Ça consomme de l'essence parce qu'il faut mettre plusieurs coups de tronçonneuse, il faut déterminer la direction, il faut connaître son penchant naturel, les contraintes qu'on peut lui occasionner et tout ça. Et du coup, ben, on ne le fait pas parce que du coup, au bout de la journée, on a moins de mètres cubes ou moins de tonnes. Et voilà, forcément, ben, on ne peut pas avoir une logique là-dedans de travail correct. Parce que c'est de la grande échelle, c'est que de la grande vision. On pense multinationale, internationale, exportation.
Est-ce que on tente de donner une idée des différents aspects de la filière bois, enfin les différents travaux, forêt, peut-être commercialisation, enfin tout ça, ou est-ce que c'est très sectorisé, très séparé, enfin il y a celui qui va à bûcheron, enfin voilà.
Ben oui, c'est vachement sectorisé. Après, c'est pas que la Bastide, c'est en règle générale. Là où j'ai fait ma formation initiale, qui est une des meilleures écoles d'Europe, qui a une ouverture au CFPF de Châteauneuf-du-Rhône. C'est pareil, il y a le monde des élagueurs, donc c'est ceux qui grimpent dans les arbres. Eux, ils ont une estime d'eux et de leur métier qui est plus importante que le bûcheron, parce que le bûcheron, il y a un problème culturel, hein. Le bûcheron, c'est un peu l'arriéré, quoi. Puis lui, il coupe un arbre au pied, alors que les lagueurs, lui, ils montent dans l'arbre pour le couper. Donc voilà, c'est plus soigneux, c'est plus acrobatique, c'est plus sportif, c'est plus élégant, machin. Après, il y a celui qui gère la forêt. Lui, il gère, il décide. Donc lui, il a encore une notoriété qui est encore au-delà. Et après, il y a le débardeur, celui qui travaille avec les machines en forêt pour sortir le bois. Et là, c'est incroyable ce qu'on peut rencontrer en formation. C'est que vraiment, les formateurs qui sont dans le machinisme de sortie de bois, dans les écoles, c'est des gens qui inculquent à leurs élèves la puissance de la machine, qui essaient de faire, voilà. Alors souvent, forcément, ce sont des hommes, et donc ils essaient de faire résonner chez eux le côté force, viridité, et en fait, ça s'inscrit forcément dans la formation, et donc ben, les stagiaires qui sont là, qui sont en formation, ils se mettent à baver devant les machines, à parler de ça tout le temps, parce que ça fait du bruit, ça craque les armes, ça les mange, ça. Et ça, c'est vraiment difficile dans les formations. Il y a pas de lien, quoi. Il y a normalement, pour couper un arbre, il faut être en accord avec celui qui le sort, et celui qui le sort doit être en accord avec celui qui le coupe. Donc voilà. Et ben là, non. Il y a les sous-merdes, c'est nous, les bûcherons. Et puis après les autres, eux, c'est que des stars. C'est eux qui maîtrisent et en plus ils sont mieux payés, quoi.
Mais si on vient maintenant à cette formation à Carmejean, donc qui a duré 4 mois, quelque chose comme ça, c'est la première fois réalisée en partenariat, on pourrait dire, avec le réseau pour des alternatives forestières. Alors, tu vois vraiment les différences où, par rapport à ce que tu viens de décrire?
Ben pour moi, la principale différence, enfin pour moi, la différence fondamentale, et c'est ce que je me suis employé de faire dès le départ, c'est de faire prendre conscience aux stagiaires que la forêt, c'est un élément dont ils ont besoin et qu'ils vont vivre avec et qu'il va falloir qu'ils fassent une symbiose. Et ce qu'on rencontre pas du tout ailleurs. Voilà, dans les autres formations, c'est pas l'objectif. La forêt, c'est l'ennemi et c'est celui qu'on va prendre pour manger, pour se nourrir nous. Or là, bah là, c'est on doit vivre avec la forêt. Et ça, c'est la chose la plus importante qui a été enseignée bien plus que les techniques de travail. Ça a été présent tous les jours de formation. Sur le terrain, ça s'est très très bien passé. Les stagiaires étaient complètement ouverts à ça et ils ont été vraiment heureux de trouver ce lien et puis de voir qu'on pouvait avoir un métier ou un travail qui peut être agressif, parce qu'on a une tronçonneuse, on en a des marres et puis on coupe un arbre, ça fait crac et on le sort et puis on va le vendre, on le brûle, enfin on le maltraite, quoi, on le fend et tout ça. Mais non, là, c'est on arrive à créer un c'est une douceur, quoi, quelque part. Si on prélève du bois, c'est aussi bon pour la forêt. Et c'est ça, là, le plus important, c'est ça. On leur a appris. Moi, c'était... Ouais, mon objectif principal. C'est qu'on a le droit de prendre du bois, pour nous, mais c'est pour servir la forêt en priorité. C'est la forêt qui est prioritaire, c'est pas nous. C'est pas nos besoins.
En fait, c'est beaucoup d'observations et de compréhension, non? Pour quelqu'un qui connaît presque pas un milieu comme le milieu forestier et d'arriver à piger comment ça fonctionne et passer un peu de temps pour arriver à ça.
Ben, ça peut paraître vachement compliqué comme ça, à en parler comme ça. Et en fait, non. C'est pour réussir à avoir une approche de la forêt qui est qui est consciencieuse, il faut le ramener juste à sa vie, sa propre vie, si on a des enfants à ses enfants, à sa famille et tout ça. Donc c'est des gens qu'on aime, qui font partie de notre vie. Et ben là c'est pareil, le milieu forestier il fait partie de notre vie et maintenant il va faire complètement partie de notre vie parce qu'on le découvre par cette formation là. Et donc il va falloir faire avec, il va falloir l'éduquer, s'éduquer soi pour que la forêt nous apprenne ce qu'on a à y faire. Voilà, c'est un truc qui se fait ensemble. Mais ce qui est vraiment fort, c'est le respect. Et c'est ce qui, là, en fin de formation, ce sur quoi les stagiaires sont le plus au point et ce qu'ils ont le plus abouti, c'est vraiment, ils veulent pas y faire de mal. Donc en fait aujourd'hui ils ont moi je suis rassuré sur tout le monde, ils sont tous, ils feront jamais de dégâts en forêt parce que aujourd'hui on leur dit non, vous en avez pas coupé assez, parce que justement ils font très attention, ils sont extrêmement soigneux. Et ça c'est voilà, ça c'est un truc qui est très nouveau. C'est au lieu de dire on va en forêt pour prendre du bois, on va en forêt pour la forêt. Et si on arrive pour la forêt à trouver du bois pour nous, c'est tant mieux. Et en fait, c'est juste cette petite nuance qui est essentielle. À partir du moment où on va travailler dans la forêt pour elle, normalement, il n'y a pas d'erreur possible. Voilà, quand on respecte une autre personne, c'est pareil. Il n'y a pas de raison qu'on aille l'assassiner, si on respecte.
4 mois, c'est court, non, pour tout ça? Est-ce que tu penses que les quelques stagiaires qui ont beaucoup aimé cette formation, mais est-ce que... Bon, c'est une espèce d'aperçu, j'imagine. Il faut quand même qu'à par la suite... Il y a peut-être une étape de presque mise en situation où ils commencent à tenter un travail professionnel, mais avec un certain accompagnement peut-être.
Oui, c'est trop court, c'est clair. Bon, c'est expérimental et voilà, c'est comme ça. Hein, il faut faire avec ce qu'on nous a proposé. On a déjà de la chance que ce soit possible, donc il ne faut pas cracher sur la soupe. Donc effectivement, on est plusieurs des formateurs à l'heure avoir proposé de les suivre, et y compris le centre de Carmejane. Le CFPPA a aussi un suivi derrière, après formation. Donc ils ne seront pas lâchés dans la nature comme ça. Moi, personnellement, j'ai des projets de partenariat avec deux. C'est clair que je ne les lâcherai pas comme ça du jour au lendemain, et je pense que ça sera sur plusieurs années. Mais voilà, oui, effectivement, oui, c'est trop court. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ne feront pas de dégâts. Donc à partir de là, il faut effectivement leur assurer le débouché derrière, qu'ils trouvent des propriétaires, des personnes qui leur fassent confiance et qui leur donnent des travaux à faire, et qui vendent leur bois petit à petit, qui se fassent leur clientèle, et puis il faut les appuyer, quoi. Effectivement, il faut les suivre. Parce que c'est vrai qu'en 4 mois, c'est beaucoup trop vaste pour approfondir. Un CAP de base, hein, c'est 8 mois, pratiquement à plein temps, et on n'apprend que à couper du bois. Donc forcément, si on voulait faire ça correctement, il faudrait 1 an et demi de formation.
En fait, c'est surtout éveiller une certaine passion, non, pour ce travail, et une curiosité de vouloir poursuivre.
Alors ça, bon, je parlerai personnellement, enfin mon nom. Oui, pour moi, y a pas le travail et la vie, enfin et ma vie, c'est un ensemble. Donc forcément, si ma vie elle a une importance, et que j'utilise la forêt pour, dans le cadre de ma vie économique, je suis obligé d'être passionné. Et ça, c'est vrai que les stagiaires, on les a passionnés complètement. Entre le début où on les promenait, on les baladait, puis ils regardaient pas grand-chose, puis maintenant, sur la fin, ils regardaient partout tout ce qui se passait. Et voilà, bah c'est ça, oui. C'est la passion. La passion, c'est universel, c'est un plaisir qui est unique à chacun. Et par contre, dont on peut parler pendant des heures. Et c'est un... Voilà, moi, je trouve ça beau et je suis vraiment très content de ça, quoi. C'est qu'on a... On leur a donné... ouais, on leur a ouvert les yeux. Et surtout sur le monde, quoi. C'est un autre point de vue sur ce qu'on consomme. Et surtout sur la matière première. Légumes ou forêts ou bois de chauffage... C'est la terre qui nous le donne.
Revenons un instant à notre entretien avec Philippe Béroux, adjoint maire de Digne.
Est-ce que ça peut te donner des réflexions au-delà de cette formation par rapport à la gestion des 1000 et quelques hectares de Digne, cette histoire d'affouage, peut-être de travailler avec des bûcherons qui ont du mal à vivre dans le monde concurrentiel actuel des travaux forestiers. Je veux dire, les formateurs ici, c'est des personnes qui ont vraiment une approche extrêmement intéressante de la forêt, mais c'est une approche qui les condamne souvent à une situation économique extrêmement précaire. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de réfléchir à augmenter, parce que le nombre de stères disponibles pour les habitants de Digne, peut-être en réfléchissant à un travail comme ça, même au-delà peut-être de cette formation.
Mais moi, je crois que si on veut aller plus loin, et la question est complètement pertinente, c'est d'abord continuer une formation comme celle-ci, et deuxièmement, pourquoi pas permettre à Digne ou ailleurs demain l'installation d'éco-bûcherons gestionnaires du patrimoine forestier communal qui arriveraient en exploitant de façon raisonnable et écologique la ressource, à trouver un métier et à valoriser une ressource locale au profit des habitants de la commune qui pourraient intégrer, je dirais, la plus-value écologique, sociale de ce nouveau métier.
Tout à fait. Mais ça poserait débat avec l'ONF ?
Non, moi je crois que l'ONF, en tout cas sur Digne, on a affaire à des gens, à des professionnels très ouverts. Moi je suis convaincu qu'on arrivera à trouver, quand on a de la volonté, on y arrive à trouver moyen de permettre l'installation d'un éco-bûcheron. Dans l'avenir, en tout cas, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Oui, moi tout à fait, moi j'y suis extrêmement favorable. On ne peut pas en rester là de toute façon. C'est vraiment une vraie réussite.
À mon sens, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été formateur dans cette formation. Et
Lison fleurit.
Et ce qui me tient à cœur aussi, c'est que pour moi, c'est une opportunité pour les communes forestières de pouvoir se rendre compte et de prendre conscience qu'elles peuvent créer des emplois, donc des employés communaux forestiers, on pourrait dire ça. Hein, ça a existé dans l'ancien temps. Des personnes qui sont là, qui gèrent et travaillent sur la commune, sur les forêts de la commune, et qui autofinance cet emploi-là à travers la vente du bois. Moi, je pense que les communes devraient réfléchir à ça, quoi. Celles qui ont, bon, forcément, celles qui ont plusieurs milliers d'hectares, il faut envisager un partenariat avec d'autres personnes, donc peut-être des AMAP bois, des CIRI, des machins, mais toujours des personnes qui sont liées à une approche de la forêt qui est respectueuse. Et après, pour des communes qui ont entre 40 et 200, 300 hectares, eh ben, elles peuvent créer des emplois à temps plein et valoriser leur forêt et en plus dire qu'elles ont créé un emploi un peu à vie, quoi. Elles ont donc installé une famille sur leur commune et c'est plus des camions qui viennent de Suède, les ouvriers kurdes ou tous ces trucs là, cette logique où on fait beaucoup de navettes, on balade, il y a plein de matériel qui se promène et puis des gens qui passent, sont de passage, qui font des chantiers, puis ils finissent pas forcément et puis on n'est pas content ou on est content et puis on s'est fait avoir ou pas. Là c'est une famille qui s'installe là dans la commune et puis elle fournit le bois pour les habitants de la commune et puis elle le vend dans la vallée.
Puis ça améliore la forêt à long terme et donne de la valeur quand même. Hein. C'est intéressant pour une commune.
Ça donne la valeur environnementale et forestière et en valeur purement de bois. C'est avantageux à au moins 300-400% pour une commune. C'est clair qu'avec ce système-là, une personne qui est là, qui désigne les arbres avec soin, qui n'a pas la pression au derrière pour faire du chiffre, forcément, elle donne une valeur patrimoniale à la commune et à la forêt communale énorme. C'est extrêmement important. Et c'est pour ça, c'est vrai que je pense que certains maires, j'espère qu'ils se sentiront concernés par cette aventure et que c'est une belle chose pour eux et surtout pour la forêt.
C'était une formation pas comme les autres. Le 7e dans la série d'émissions Entre cimes et racines, réalisé par Radio Zinzine en partenariat avec le Réseau pour les alternatives forestières. Si vous voulez plus d'informations sur le Réseau pour les alternatives forestières, vous pouvez consulter la page Forêt sur le site www.relier.info.